Le puma saute de l'arbre sur le sol, du sol sur la roche. Le puma saute de l'arbre à un autre arbre, avec sa tête ronde. Le puma saute de l'arbre sur le mouton, le 50e de la journée. Le puma égorge le mouton, comme tant d'autres moutons. Le puma, avec sa tête ronde et son visage calme. Le regard calme et intraitable. Il mord le mouton à la nuque et les gorges. Le puma a l'habitude. Et le mouton se laisse faire, comme s'il avait l'habitude lui aussi. Pourtant, c'est la première fois qu'il se fait égorger. Et c'est la première fois qu'il meurt. Mais c'est comme s'il avait l'habitude. C'est comme si ça lui était arrivé tous les jours, car tous les jours des centaines de moutons sont égorgés par les cougars. Et un mouton en vaut bien un autre. Et tous les moutons sont le même mouton. Les moutons sont tous remplaçables, interchangeables, sacrifiables. Les moutons sont faits pour ça. Ils ne le remettent pas en cause. Ils ne le pourraient même pas. Et le puma saute de l'arbre sur le mouton. Parce que le puma est fait pour ça. Avec son regard intraitable. Mais un cougar ne remplace pas un autre cougar. Les cougars ne sont pas tous le même cougar. Et le cougar sait que les moutons sont faits pour être égorgés par les pumas. Mais les pumas se sont posé la question, parce qu'ils le peuvent. Et les cougars ont arrêté de se poser la question. Le cougar, le puma, le cougar, le cougar, le puma, accroupi, observe le serpent indigo qui rampe, glisse et repasse sur lui-même. Le puma, de son regard intraitable, observe, calme et accroupi. Il n'a pas envie de sauter. Il observe calmement, intrigué, les mouvements sinueux du serpent indigo qui se love sur lui-même, s'éloigne et se rapproche de lui-même, glissant sur lui-même, remontant sur lui-même et retombant de lui-même, formant des courbes et des nœuds jamais achevés, toujours recommençant. Et le puma, la patte posée sur son festin, sur sa carcasse de mouton, observe le serpent indigo qui sait peut-être qu'il est observé, mais qui est tout entier attaché à ses mouvements auto-hypnotisants. Il arrive à se mettre complètement en transe. Finalement, en faisant du surplace et en se déplaçant autour de lui-même, au-dessus et en dessous de lui-même, finalement, il arrive quelque part, à un état autre. Il s'est déplacé dans une autre dimension, et pourtant il est toujours là, dans la même dimension que le puma, qui pourrait d'un coup de patte l'aplatir. Le serpent indigo, qui pourrait s'entourer et se suspendre à la branche du cougar. Le cougar pourrait sauter. Le serpent pourra se laisser tomber. Le soleil perce au travers du feuillage des arbres de la forêt. L'ara rouge traverse le ciel qui apparaît par touches bleutées au-dessus de la pénombre verte. La lumière vient du ciel, l'ombre du feuillage des arbres ou des nuages qui passent, même des nuages blancs. L'ara rouge s'élève de la pénombre de la forêt vers la lumière du ciel bleu, tirant parfois vers le blanc. Le puma ne prend pas la peine de lever la tête vers le perroquet qu'il jalouse, contre lequel il a abandonné toute velléité de meurtre. Jadis, le puma s'est énervé contre l'ara. Il en est même apparu ridicule au regard des autres animaux, lui qui se donne tellement de mal pour apparaître comme un modèle de sérénité meurtrière, comme la force implacable et incontestable, preuve de l'équilibre nécessaire de la chaîne alimentaire, de l'ordre du monde et du lever du soleil. Il s'en est fallu de peu, qu'en sautant d'une manière grotesque pour tenter de gifler ce perroquet provoquant et arrogant. Il se flanque, lui et son honneur par terre, remettant ainsi à plat sa condition et celle de ses proies. Que les certitudes des animaux se transforment en doute, et ce doute en compréhension. Seul Dahu sait ce qu'il serait advenu alors du monde. Le hara rouge se dépêche, car il doit cogner le bec du hara hyacinthe avant le coucher du soleil. Il bat des ailes de toutes ses forces. Le sommet des arbres, effleurant parfois son ventre rouge, rempli d'argile et de nectar.